sur 103,5.
Il y a bien longtemps, les fiançailles étaient aussi importantes que le mariage lui-même. Cette promesse était vraiment prise au sérieux et se devait d'être respectée. Cependant, à nos jours, c'est plutôt le contraire. Il arrive des fois que, pour des raisons multiples, cette promesse n'aboutit pas toujours au mariage. Plus d'une personne ayant contracté cet engagement se sont séparées en queue de poisson. À ce sujet, un certain nombre de questions se posent. Savoir quelles sont les conséquences juridiques de la rupture des fiançailles et quelle est la valeur juridique des fiançailles. À cela, il faut encore ajouter une question, ce que dit la loi congolaise. Mais avant d'aller dans le vif de notre sujet, Jolie-Laure, comment pouvez-vous définir ce mot fiançailles? Mais d'abord, je dis bonjour.
Bonjour, Gilles.
Alors, comment définissez-vous le mot fiançailles?
Merci, ce mot veut dire beaucoup de choses différentes. Donc, pour les uns, c'est vivre ensemble, sans être marié. Pour d'autres, c'est sortir avec quelqu'un. Pour d'autres encore, c'est pour désigner le fait qu'on a un copain, une copine, un peu plus serré que le simple flirt. Et pour eux, la période des fiançailles est l'étape la plus importante. C'est donc l'ascenseur qui fait monter au sommet, qui est donc le mariage. Donc, c'est une période test pour les fiancés à mieux se connaître. À ce sujet, j'ai fait un vox pop. Écoutez ce que les gens disent.
Fiançailles, c'est bien. C'est pour connaître tout d'abord les comportements de la femme à qui vous voulez vous marier.
Et ça fait bien pour au courir au bal à n'importe qui, beaucoup de balafé, ma famille, ma adresse, écolo.
Fiançailles, c'est nécessaire. Pour les alli, batomi balé, pour baie banité, ba foutani balingani. Alors moi tant ça dépend à bateau 6 mois, 1 année, ça dépend à bateau ba kozaka bango. Moko na moko ba moninga, e ba kalita moninga na ba defa moninga. So mi baie ba monike, ba s'accepter quoi. Il faut accepter la qualité de la femme. Il faut que tout le monde soit en train de se marier. Mais il n'est pas dit que ce soit un fiançailles obligatoirement. Il faut que ce.
Pour moi, le fiançailles, c'est l'étape où deux personnes se préparent pour le mariage.
Pour moi, les fiançailles sont une période d'observation.
Pour moi, le fiançailles, c'est celui qui drague.
Alors, chacun a sa définition. Jolie, nous venons de suivre les différentes définitions des fiançailles. Dites-nous, est-ce que c'est reconnu par la loi et comment la loi définit-elle les fiançailles?
Oui, effectivement, les fiançailles sont prévues par le code de la famille. Mais pour les législateurs congolais, les fiançailles constituent simplement une promesse de mariage qui n'oblige pas les fiancés à contracter nécessairement un mariage. Donc, comme c'est juste une promesse, cet engagement peut ne pas être réalisé.
Et en cas de rupture des fiançailles, qu'advient-il ensuite?
En cas de rupture des fiançailles, la loi parle plutôt de celui à qui incombe la faute, c'est-à-dire à celui qui a eu à pouvoir rompre les fiançailles de manière abusive, qu'incombe la responsabilité de réparer. Madame Ojinga.
La loi dit qu'il y a les cadeaux, par exemple, les biens qui ont été échangés seront remboursés selon la coutume. C'est-à-dire que ce sont des cadeaux que les fiancés ont l'habitude de se donner pendant cette période de fiançailles. L'homme peut offrir à la femme, ainsi que la femme aussi peut offrir à l'homme. Mais il peut se faire que l'homme, par exemple, ou la femme, rompt les fiançailles sans aucun motif valable. À ce moment-là, c'est lui qui a eu à rompre, que ce soit l'homme ou la femme. S'il ne parvient pas à donner un motif valable, nous disons qu'il y a eu qui a rupture abusive. À ce moment-là, c'est lui qui a entraîné la rupture abusive, devra maintenant sera obligé de pouvoir restituer tout ce que l'autre lui a donné comme cadeau, par exemple. Et au cas où il y a un préjudice qui a été causé, c'est lui qui a eu la victime de la rupture abusive, peut même saisir le tribunal pour demander des dommages et intérêts.
Peut-être que vous ne le saviez pas avant, vous ne le saviez pas. Et maintenant que vous l'avez su, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions et commentaires au 081 070 20 50 ou carrément nous appeler au 081 890 63 94. On va poursuivre avec vous, Jolie-Laure Mbalivoto. Là, on a suivi, c'est le cas, en cas de rupture de fiançailles, c'est que ce cas vient ensuite. Mais dans les cas contraires, c'est-à-dire s'il y a refus des dédommagements.
Madame Ojinga l'a dit, la loi dit que toutes les prestations et les valeurs données ou échangées lors des fiançailles doivent être remboursées conformément à la coutume. Je vous propose encore de le suivre.
Le remboursement se fera conformément à la coutume. Maintenant, si l'autre ne rembourse pas, à ce moment-là, nous considérons qu'il y a maintenant un conflit qui naît. Et ce conflit devra être soumis au cours, devant les cours et tribunaux. pour que le tribunal puisse, à ce moment-là, obliger l'autre à pouvoir rembourser ce qu'il a eu à recevoir. Et si c'est l'après d'autres, les parents de la jeune fille seront obligés de rembourser. S'ils ne remboursent pas conformément à la coutume, étant donné que c'est un bien et que l'autre réclame son bien, à ce moment-là, le jeune homme sera reçu devant le tribunal. S'il saisit le tribunal va recevoir son action.
Voilà, alors ça nous pose joli à pouvoir poser encore une autre question. Est-ce que vous avez eu à retrouver quelques cas comme ça, disons des couples qui ont connu des ruptures, un cas de rupture des fiançailles?
Avant de vous donner un exemple, c'est juste une petite histoire. L'histoire s'est passée ici, c'est juste une tragédie qui s'est passée le lundi dernier ici dans la ville de Kinshasa. Au fait, comment ça s'était passé? Il y a une femme qui a été brûlée vive par son ex-fiancé. Au fait, la femme a été fiancée à un homme. Déjà, les deux cohabitaient. Quelques temps après, l'homme voyage pour aller en Angola. Et puis, quelques mois, une année après, il rentre à Kinshasa. Il se trouve que sa fiancée était fiancée à quelqu'un d'autre, à un autre homme. Tout en colère, il prend l'essence, allumette, et puis il va brûler la femme.
C'est vraiment méchant.
Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mm-hmm. Mais je vous propose de suivre cet exemple.
Peut-être que vous avez aussi été victime d'une telle aventure. N'hésitez pas à nous envoyer vos SMS au 081 070 20 50. Alors, petit à petit, on s'approche vers la fin de cette enquête jolie. Cette question des remboursements nous ouvre d'autres brèches sur le remboursement de la dot. Comment cela se fait-il?
Gilles, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le mariage coutumier en soi est une institution en Afrique et au Congo aussi. Et par conséquent, en versant la dot et les autres biens connexes, l'homme et la femme deviennent coutumièrement époux-épouse. Cependant, dans bien des cas, après la célébration du mariage coutumier, il arrive que certains couples décident de rompre pour une raison ou une autre leur mariage. L'homme peut alors réclamer à la belle famille le remboursement de la dot, surtout quand il n'y a pas eu d'enfant dans le mariage.
Alors justement, qu'est dit le droit congolais à ce sujet?
Ce sujet, nous avons abordé cette question avec la présidente du tribunal de paix de Ngaliema, Mme Marie-Jeanne Wembo. Elle nous a précisé une chose, que ces problèmes se règlent en fonction de la tribu. Donc ça dépend d'une tribu à une autre et le juge apprécie en fonction du cas qui lui est présenté, des réalités spécifiques du problème aussi, tout en tenant compte des revendications de chaque partie. Ici, elle est en train de parler en français et en lingala.
Le remboursement de la dot, c'est l'un des effets du divorce même. Et ce remboursement se fera conformément à la coutume des parties appréciées. Le juge peut refuser cette demande, soit ordonner le remboursement partiel, notamment en cas de présence d'enfants, en cas de mariage de longue durée, si les époux ont vécu longtemps, ou soit si l'épouse est inapte au travail. Le tribunal peut accorder le remboursement partiel de la dot. Et il y a les cas où on exige le remboursement total, les cas où il n'y a pas eu d'enfant. La femme n'est pas parvenue à avoir des enfants, là où on demande le remboursement total.
On vient d'entendre que les droits congolais a prévu des dispositions possibles sur le remboursement de la dot. Beaucoup plus de détails avec notre invité, Maître Dominique Kamwandou, de l'Avocat sans frontières. Et encore merci, Jolie Laure Malivoto, de nous avoir présenté cette enquête.
Je vous en prie, Gilles.
Okapi. fréquence de la Terre.
Il est déjà dans ce studio, Maître Dominique Amouandou, de l'Avocat Sans Frontières. Bonjour, Maître Dominique. Alors, d'abord, j'aimerais bien savoir, parce que Jolie nous a fait les points, et vous l'avez suivi aussi, les fiançailles sont-elles reconnues par la loi? Si c'est vrai, c'est dans quel, disons, dans les codes de la famille, comme on l'a dit, c'est quel article?
Merci beaucoup, J.R. Les dispositions du code de la famille, particulièrement à partir des articles 186 et suivants, parlent des fiançailles. Les fiançailles consistent en la promesse de mariage qui est faite entre les deux fiancés et qui peut aussi être faite de manière solennelle en présence des familles. Et cela est reconnu par la loi et la question de famille, des fiançailles se règle selon la coutume. Et pour plus de précision, j'ajoute pour dire que, à la différence du mariage qui est un état civil, qui a un registre d'état civil qui doit être enregistré auprès de l'officier de l'état civil, les fiançailles n'ont pas ou n'exigent pas un acte précis de l'officier de l'état civil.
Ça, c'est dangereux, parce que quand c'est l'officier de l'état civil n'est pas impliqué, donc on peut se permettre de tout. Ça, c'est le manque de compréhension. Mais Maître Dominique, la loi réglemente la vie dans une société, ça on le sait. Les fiançailles font partie des us et coutumes d'une société. Alors, qu'est dit la loi en ce qui concerne les fiançailles qui n'aboutissent pas au mariage, surtout en cas de refus d'un des procédés ou des fiancés?
Effectivement, la loi précise que les fiançailles consistent en une promesse de mariage, mais n'obligent pas nécessairement les deux fiancés à contracter mariage. Donc les fiançailles peuvent ou ne pas aboutir au mariage pour des raisons fondées de la part dans le chef de l'un ou des deux fiancés.
Ben alors, il y a bien des cas, le monsieur fiancé verse un montant représentant la prédote, c'est comme ça qu'on l'appelle, symbolisant ainsi la valeur des fiançailles. Mais lors de la rupture, la belle-famille refuse de rembourser la prédote. Quelles sont les conséquences juridiques qui s'en suivront?
En principe, au moment de la rupture des fiançailles, les valeurs qui ont été versées doivent être restituées. Il en est de même des cadeaux qui ont été échangés entre les deux fiancés. La loi oblige que si la coutume des deux ou la coutume de la fiancée, parce que c'est en cas de contradiction entre les deux coutumes, c'est la coutume de la fiancée qui prédomine. Si la coutume le prévoit, les valeurs et les cadeaux échangés doivent être restitués. Sauf dans certains cas où il est établi, par exemple, que l'un des fiancés a été fautif et à la base de la rupture des fiançailles par un comportement fautif. À ce moment-là, le juge peut ordonner que les cadeaux offerts par lui ne soient pas restitués.
Mais alors, mais parce que là, c'est un peu curieux, quelqu'un qui verse sa dot, sa prédot, et l'État reconnaît le remboursement. Le fait de reconnaître que les remboursements peuvent être faits, c'est qu'on reconnaît aussi qu'il y a eu fiançailles selon les dispositions. Alors pourquoi la loi ne pourrait-elle pas accepter que les fiancés se présentent devant l'État civil, qu'il prévoit un peu quelques dispositions à ce sujet, pour mettre un peu des garde-fous, quoi?
Bon, la loi, de la part de la volonté du législateur, on note que la loi ne consacre pas les familles, ne donne pas aux fiançailles une valeur juridique forte, comme le mariage qui est un état civil et qui doit être enregistré. Les fiançailles, par contre, n'aboutit pas au changement de l'état civil des deux personnes. Et les fiançailles ne lient pas, selon les termes de la loi, obligatoirement les deux conjoints ou les deux fiancés à contracter mariage. Ce qui veut dire qu'au départ, on ne veut pas mettre les personnes dans des conditions, des contraintes, de pouvoir aboutir nécessairement au mariage, même si elles se rendent compte que ça ne va pas entre eux. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles la loi ne veut pas entourer le fiançailles de beaucoup de caractère, d'un caractère aussi contraignant comme le mariage, qui est voulu un lien durable et solide. Parce que quand les gens sont arrivés à consentir au mariage, sûrement qu'ils ont pris en connaissance des causes tout les éléments.
Alors là, la loi encourage les escrocs ou certaines escroqueries en matière de fiançailles.
La loi n'encourage pas l'escroquerie. C'est pour cela que la loi prévoit.
Nous avons suivi un pasteur qui a promis le mariage à une femme et puis elle en a fait comme ça, 2, 3, 4, donc il n'y a pas eu 2, 103, il n'y a pas eu 304. Et finalement, elle pouvait même atteindre le nombre 10 de fiançailles qu'elle a escroqué.
La loi n'encourage pas cela parce que la loi prévoit C'est lorsqu'une personne a été victime d'une rupture des fiançailles de cette manière-là, cette personne peut s'en remettre au tribunal pour obtenir réparation.
Et remboursement par plusieurs fois. Donc les messieurs peuvent rembourser par plusieurs fois.
Non, pas seulement le remboursement. Le remboursement est une chose, mais la réparation du préjudice subi en est une autre. Dans ces cas-là, la loi peut condamner la personne à payer des dommages et intérêts, ce qui est différent des remboursements.
Ok. Alors, vous avez suivi le point que nous a fait Julie Laure Mbalivoto. Un fiancé a brûlé vif sa fiancée qui, pour une raison que lui a bien jugée et non fondée, avait décidé de rompre les fiançailles. La loi condamne-t-elle cet acte?
En tout cas, cet acte-là, c'est une infraction. La personne a causé des lésions graves à sa fiancée. Et dans les cas d'espèce, il y a plusieurs infractions que l'on peut retenir. Il a procédé aux violences et voies de fait. Il a sûrement procédé, s'il a eu à lui apporter la main sur sa fiancée, à être auteur de l'infraction des coups et blessures. Et toutes ces infractions sont prévues par la loi, et le fait de mettre le feu, de brûler même les biens, constitue l'infraction d'incendie qui est sanctionnée par la loi. Alors, et la loi ne donne pas le pouvoir au fiancé de porter la main, de donner des coups à la fiancée. Et la loi ne l'autorise pas.
Voilà, il y a des réactions qui tombent déjà. Il y a Claudine Mema à Ouvira qui dit « Moi, je voudrais savoir pourquoi les gens des fiancés, les fiançailles qui durent longtemps, finalement, les gens ne se marient jamais. C'est toujours la déception. Pourquoi alors? Et la loi accepte ça comme tel. »
Bon, ça, c'est pas une question de droit, c'est une question de fait qui est laissée à l'appréciation de chacun. Mais ce que je peux dire, c'est que force, par exemple, de rester longtemps, les gens peuvent ne plus trouver nécessaire d'aboutir au mariage, peuvent perdre les goûts. Bon, ça, ce sont des éléments de fait qui peuvent intervenir, qui ne sont pas vraiment des éléments de droit, mais on a vu aussi des fiançailles de longue durée qui ont abouti au mariage.
Tamboué Ntumba dit « Dois-je rembourser tous les biens et cadeaux reçus ?» lorsqu'il y a rupture des fiançailles, or mon copain est séropositif.
Non, mais si ça, tu vois, on dit ceci. Si la loi dit qu'il y a des cas où le juge peut ne pas ordonner la restitution, bien sûr que la restitution doit se faire selon la coutume. Si la rupture des fiançailles, comme on a dit, est due à une faute ou à une situation dont l'auteur est l'un des fiancés et qui a offert les biens, et dans ces cas-là, la loi peut ne pas ordonner la restitution des biens. Et dans certaines mesures, on peut ordonner une restitution symbolique.
Alors, il y a l'anonymat, il dit, c'est par rapport à ce que j'évoquais là, l'escroquerie, il dit les fiançailles ne sont plus perçues comme avant. C'est beaucoup plus une ouverture aux facilités sexuelles, aux aisances amicales. Combien encore se présente chaste au mariage? Alors, pourquoi la loi laisse tout ça? Voilà, c'est la question que je vous avais posée.
Oui, la loi laisse les personnes, on voit bien des personnes qui vivent en union libre, qui vivent toutes sortes de relations, qui ne sont même pas les fiançailles, qui ne sont, consistent même pas en une promesse de mariage. La liberté, c'est un des principes consacrés, et la personne est libre de mener sa vie comme elle l'entend, sous réserve du respect de la loi. C'est-à-dire, ce que la loi, d'une manière générale, on dit, ce qui n'est pas interdit par la loi. Donc, les gens sont appelés à faire preuve de plus de moralité dans leur relation et non pas d'entendre de la loi des prescriptions en cette matière.
Francine de Pubény dit la période de fiançailles, c'est la période d'hypocrisie. Alors, il pense qu'il faudrait qu'on puisse réellement mettre des garde-fous. Vous partagez son point de vue?
Moi, je pense que c'est une période qui appelle les deux partenaires à plus d'attention et à se faire le plus confiance. Parce que si les deux ne se font pas confiance, c'est difficile que leur aventure aboutisse convenablement. Effectivement, on rencontre beaucoup de cas d'hypocrisie, ça et là, mais on appelle des gens à plus de prudence et de responsabilité dans leurs actes.
Alors pour les Quinois, en particulier les Congolais en général, verser la prédot signifie que la femme vous appartient en quelque sorte, même si la loi ne le dit pas. Est-ce une fausse évidence?
Ce n'est pas vrai. Dès lors qu'il n'y a pas eu parachèvement du mariage conformément aux coutumes des conjoints et conformément à la loi, les, les fiançailles ne donnent pas droit à l'homme ou à la femme de poser n'importe quel acte. Quand il parle, par exemple, des relations sexuelles et tout ça, cela consiste en la consommation du mariage. Et dans les cas d'espèce, on ne parle que des fiançailles, on n'est pas encore arrivé au mariage. Alors, ça ne doit pas se passer ainsi.
Alors parlons des grossesses qui surviennent lors des fiançailles et que, décidément, l'homme prend la décision, disons, carrément de quitter la fille. La loi dit quoi?
En ce qui concerne les situations de grossesse, il s'agit d'une situation qui est arrivée à partir des actes délibérément posés par deux personnes que l'on suppose être des majeurs. Mmh. Et ces personnes doivent assumer leur responsabilité. Lorsque les fiançailles n'aboutissent pas au mariage alors qu'il y a eu grossesse, en principe, l'homme a l'obligation de prendre en charge tous les frais nécessités par les soins de santé,
l'alimentation,
les soins de santé, pendant toute la période de la grossesse et jusqu'à un an après l'accouchement. Et pour ce qui est de l'enfant, il a l'obligation de le reconnaître devant l'officier de l'état civil comme étant un enfant né hors mariage, c'est-à-dire de l'affilier et de subvenir à tous ses besoins.
Alors, dans le cas contraire?
Dans le cas contraire, on peut l'y contraindre par voie judiciaire, c'est-à-dire on peut initier une action en recherche de paternité et le tribunal va l'obliger à prendre en charge cela. Et
s'il ne le fait pas... Dans ces cas-là, on parle de l'abandon de famille. Donc on a abandonné.
Non, ce n'est pas l'abandon de famille parce qu'ils ne sont pas mariés, il n'y a pas de famille. Et même si on parlait de l'abandon de famille, cela ne répond plus actuellement parce que cette infraction a été abrogée et n'existe plus dans notre législation. Et s'ils étaient mariés, on parlerait peut-être du refus de cohabitation et des manquements aux obligations du mariage. Mais dans les cas d'espèce, il a l'obligation d'assurer toutes les responsabilités et l'autorité parentale sur l'enfant à naître et pendant la naissance. Et s'il ne le fait pas, on peut l'y contraindre par la justice. On peut même arriver à ce que s'il travaille et qu'il a un employeur, que la loi oblige par exemple son employeur à verser une partie du salaire à la mère de l'enfant pour les charges dues à l'entretien de l'enfant.
Alors, mais moi, c'est ce qui m'étonne. Si le monsieur n'est pas dans son premier forfait, il en fait comme ça d'habitude. Donc, la loi lui laisse le bon choix, c'est-à-dire parce que le fiançailles, c'est juste une promesse et il continuera à faire autant de promesses, autant de femmes et la loi ne dit rien. Moi, c'est ce qui m'écœure.
Non, la loi dit que lorsque on est arrivé à rompre de manière abusive et que l'on a causé préjudice à l'autre partenaire, on peut être condamné à la réparation. Déjà, la loi permet que l'on peut le poursuivre
ça ne suffit pas,
et le condamner à la réparation.
Ça ne suffit pas. Les Kinois ou les Congolais aiment bien les concrets, c'est-à-dire une punition.
C'est-à-dire que la personne fasse la prison,
par exemple.
Bon, dès lors que cela n'est pas érigé en infraction, parce que pour être condamné à une peine de privation de liberté, il faut que l'on pose un acte infractionnel, un acte qui est expressément interdit par la loi et pour lequel la loi prévoit la peine. À ce moment-là, on suppose qu'on a troublé l'ordre public et pour cela, on doit subir une sanction. Mais dès que, dans le cas d'espèce, quel acte on va incriminer? Le fait de faire des promesses ou le fait d'avoir des relations sexuelles parce que l'autre partie a été consentante aussi dans tout ce qui s'est passé.
Voilà. Il y a Elie Kolongo à Kisangani qui dit « Je voudrais savoir si on peut parler des fiançailles dans l'acte concret, symbole devant les deux familles. » Donc, je veux dire, est-ce qu'on peut parler de fiançailles sans un acte concret, sans donner une prédote? Est-ce qu'on peut parler de fiançailles? Et quelle est la durée prévue par la loi pour les fiançailles?
Merci beaucoup. La période des fiançailles n'est pas réglementée par la loi. Donc, c'est relatif. Ça dépend d'une personne à une autre et des habitudes dans un coin comme dans un autre. Mais ce que l'on peut dire, c'est que pour la loi, les fiançailles existent dès lors qu'il y a promesse de mariage entre les deux fiancés, même si cela ne s'est pas fait en présence des familles, même s'il n'y a pas eu près d'autres, ce qu'on appelle officialiser le fiançailles, et même s'il n'y en a pas eu, dès qu'il y a promesse de mariage entre les deux fiancés, on suppose que, selon la loi, les fiançailles commencent déjà à partir de ce moment-là.
Olivier Kayumba de Kolosi dit « Si le fiancé mourait, la belle famille peut-elle retourner la prédote ?»
Non, ça, ce n'est pas prévu par... Si cela est prévu par la coutume, oui. Mais en principe, dans les cas d'espèce, cela n'est pas d'application.
Alors, Monsieur Adolphe Matamba, de GT1 Droit Inilou, vient d'ailleurs de confirmer ce que vous avez dit, Maître Dominique, il dit, selon les codes de la famille, en son article 337 alinéa 2, les fiançailles n'obligent pas les fiancés à contracter un mariage. En ce qui concerne la rupture abusive des fiançailles, cela est sanctionné selon les cas prévus par la loi. C'est Adolphe. Donc c'est
okay, vrai, c'est ce qu'on est en train de dire parler oui. tout à l'heure.
Donc vous confirmez?
Oui.
Et c'est ce qu'a dit aussi M. Jean Calvin Chimboabois de Kananga. Il dit qu'il faut se référer à l'article 337. Je suis en train de me rendre compte que les étudiants en droit, ils maîtrisent bien leur cours. Mm-hmm. Et ils disent bien qu'il faut se référer à l'article 337 du code de la famille. L'article dit c'est une simple promesse du mariage. Cette promesse peut aboutir ou pas.
Ou n'est pas aboutir.
Voilà. Donc il y a Gisèle de Boutembo. Il dit, est-il permis durant la période de fiançailles de s'accoupler? Si oui, en cas de grossesse, quelle procédure irait courir? Là, vous venez déjà de dire.
Oui, on vient de le dire. Il n'est pas permis l'accouplement ou les relations intimes consistent en la consommation du mariage. C'est ainsi que quand on parle du mariage, on dit les époux sont tenus de consommer le mariage. Cela se concrétise effectivement par l'union charnelle, ce qui n'est pas le cas pour la période de fiançailles.
Alors, il y a Bob qui nous écrit de Danemark. Voilà. Donc, nous recevons des réactions de partout qui dit à quel moment une relation peut être reconnue, disons, les fiancés peuvent être reconnus officiellement par la loi congolaise. Il y a une période.
En principe, dès qu'il y a échange des promesses de mariage entre les deux fiancés, on suppose que la période, les fiançailles ont déjà commencé, indépendamment de l'officialisation devant les deux familles ou du versement de la prédote. Dès lors que les deux, selon la loi, dès lors que les deux fiancés ou les deux jeunes gens se sont fait la promesse de contracter mariage, il y a déjà les fiançailles.
Alors il y a Francine de Béné, pour moi la période de fiançailles, c'est la période d'hypocrisie. Cette période est censée contracter les fiançailles. Qui est censé contracter les fiançailles? Un marié, une religieuse ou un mineur, hein, en sont capables d'après la loi?
En principe, les fiançailles donnent une promesse, c'est une promesse de mariage. Selon la loi,
un marié peut aussi donner une promesse de mariage.
Mais un marié est déjà marié, comment il va donner une deuxième promesse? Parce que notre loi interdit la bigamie. Dès qu'une personne est mariée, elle ne peut pas contracter un deuxième mariage. Dans ce cas-là, la personne tombe sous le coup de la bigamie et il est poursuivable par la loi. Et notre code de la famille consacre le mariage monogamique. Donc, un marié ne peut pas donner une promesse de mariage.
Merci Maître Dominique Kamwandou de nous avoir donné tous ces éléments et on se retrouve à lundi prochain.
Merci beaucoup, J.R.
Hey. Ça, c'est une consolation pour la famille Mokona. Et ça l'a dit le 16 octobre 1994. I'm not going to be able to do that.
Alleluia, yeah.